N'oubliez pas qu'on l'avait plongé dans au fond d'une citerne en plus. Il n'a plus la paix. Il dira même, Jérémie 3, 18, Lamentation, « J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Et malgré tout, eh bien, Jérémie a trouvé la force d'avoir une vision de foi. Il a ranimé son âme et eh bien, il a proclamé que Dieu est fidèle et qu'il y avait l'espérance. Il a ranimé cette espérance. Donc, je dirais que si on avait, nous, tous les jours, cette disposition d'esprit et de cœur, eh bien, on est prêt pour le jour où Jésus va revenir. Il n'y a pas de problème. Il paraît que c'était dimanche dernier, d'ailleurs. Je ne sais pas d'où venait l'information. Oui, il paraît. Je ne sais pas d'où venait la source. La même, peut-être, enfin, aussi erronée que celle où il y a 2 ans, au mois de septembre aussi, en fonction de l'alignement des planètes, les éclipses, Jésus devait revenir. Bon, évidemment, je dirais qu'il fallait être insensé pour y croire. Mais on aime savoir, c'est vrai. Et ce qu'on sait, c'est que, ben, finalement, nul ne sait. Hein. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Donc ces paroles, elles sont de Jésus. Et il ajoutera, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. » Et, étrange coïncidence, le week-end dernier, nous étions à Poitiers, avec un gros pan d'église qui se réunissait pour étudier précisément la fin des temps. Bon, je me suis dit, on n'en sait jamais assez, donc on était content de retrouver des frères et sœurs et puis de participer donc, à ce rassemblement. Je me garderai de vous rapporter bon, certaines déclarations entendues parce qu'elles vous perturberaient comme elles m'ont perturbé. Parce que vous savez, on aime bien en général que ça cadre bien, on se fait un certain scénario avec une certaine chronologie, on aime bien que ce soit logique, vous êtes comme moi, hein, bon. Puis arrive un moment, des fois, ça met tout par terre, et là, on ne sait plus trop. Mais ce n'est pas le principal. Honnêtement, il faut bien comprendre que chaque fois qu'on se réfère, par exemple, à l'Apocalypse, l'Apocalypse n'a pas été écrit, ce n'est pas un traité de futurologie qui nous donne chronologiquement tout ce qui va se passer dans l'ordre et avec des tas de précisions. Non, hein. L'Apocalypse, c'est une révélation que l'apôtre Jean a reçue pour encourager les chrétiens persécutés et justement pour manifester à travers les tableaux qu'il a reçus la gloire de Dieu et encourager, exhorter les chrétiens à tenir bon. C'était le but. Donc, on sait très bien qu'il y a des points de vue qui divergent concernant bien l'enlèvement de l'Église, il y a des points de vue qui divergent concernant la grande tribulation, concernant le millénium. Bon, on respecte les différences, hein, mais il y a au moins un point sur lequel tout converge, c'est le retour de Jésus. D'accord. Donc mon propos ce matin, c'est d'une part, faire que chacun soit convaincu que Jésus va revenir. D'une part. Qu'il y ait cette conviction, eh bien, que les temps sont de plus en plus proches. En être conscient. Et se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi, en fait, dans la gestion de mes priorités. Vous allez voir, c'est une réflexion quand même qui est utile, à mon avis, qui va être encourageante, qui va nous motiver, j'espère, pour bien interpréter notamment, et on va se servir de la lumière de la parole de Dieu, on va projeter le faisceau, je dirais, lumineux de la parole de Dieu sur les événements qu'on vient de vivre et ceux qu'on va vivre encore, je dirais, pour nous laisser instruire par Dieu. C'est pour ça que le titre de mon message, je devais être intrigué, c'est « L'instruction de la nature », et en sous-titre, c'est « Voir, comprendre et réagir ». Cela dit, on va quand même demander l'aide de celui qui enseigne, et c'est pas moi. Moi, je vais essayer de partager, mais que le Saint-Esprit parle au cœur de chacun, on va lui demander son aide. Saint-Esprit, viens encore ce matin, au travers de ce qui va être dit, de ce que tu m'as mis à cœur de partager, parle au cœur de chacun des frères et sœurs qui sont présents, pour que, Seigneur, eh bien, ta parole reprenne encore toute une actualité, Seigneur, dans leur quotidien. Viens vraiment ranimer, Seigneur, les consciences un peu endormies, par rapport à ce que nous vivons, autant que nous sommes, Seigneur. Et merci d'équiper chacun, merci de le mettre, Seigneur, là où tu veux qu'il soit, et qu'on soit tous prêts, Seigneur, agissant comme un serviteur fidèle, prêt pour le retour de leur maître. Seigneur, merci encore pour ce que tu vas dire au cœur de chacun ce matin, à travers ce message. Amen. Donc, premier point, soyons convaincus que Jésus va revenir. Et là, je ne vais pas m'étendre longuement, vous prenez avec moi le livre des Actes, au chapitre 1, on va lire des versets 9 à 11. Donc, là, si ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit Parole de Dieu, acte 1. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On ne peut pas être plus clair à mon avis, ce n'est pas un langage énigmatique, ce n'est pas poétique, c'est vraiment du concret. Vous l'avez vu monter dans les nuées, il reviendra de la même façon. Voilà. Donc, là, il n'y a pas d'autre commentaire. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Jésus va revenir? Est-ce qu'il va revenir simplement pour dire hey, « Eh, coucou, voilà !» Non, c'est vrai, vous avez raison, je suis bien vivant. Je viens vous dire bonjour en passant. Vous allez avoir des temps difficiles, ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Bon, mais comme on est mieux là-haut, bon, bye-bye, je retourne là-haut. Quoi. Voilà. Comme si, simplement, une apparition, il s'en va. Non, si Jésus revient, c'est bien pour faire quelque chose. Et quand on parle de faire quelque chose, je pense qu'il vous vient à l'esprit, ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, on parle d'un millénium. Jésus doit régner sur terre pendant 1000 ans. Vous êtes au courant, non? Alors tout de suite, on se pose déjà des questions. Est-ce que ça va durer 1000 ans? Bon. Je vous dis tout de suite, faut pas perdre de vue que l'Apocalypse, bon, puisque c'est dans l'Apocalypse qu'on en parle, c'est quand même des tableaux qui sont pas forcément dans l'ordre chronologique, bien sûr, puisqu'il fait mention bien des fois de fin du monde, déjà, et avec des tableaux qui s'intercalent, d'une part, et surtout qu'il y a beaucoup de chiffres, et avec beaucoup de chiffres symboliques. Bon. Donc, on ne va pas s'arrêter au nombre 1999 plus un d'année, comme nous on connaît, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un certain temps, quand même, où Jésus va venir pour régner. Et pourquoi, là il va venir pour remettre un peu d'ordre sur cette planète Terre que l'homme a malheureusement mis mal en point. On va reparler. Bon, il est déjà venu poser les fondements de son royaume, et maintenant, grâce à son œuvre à la croix, dont on a rappelé ce matin encore le bénéfice, tout ce qu'il a fait, il est offert à chacun, effectivement, eh bien de connaître, je dirais, ce processus de régénération, de nouvelle naissance, pour tous ceux qui acceptent l'œuvre de Jésus. Mais on vit malheureusement dans un monde qui refuse ce que Jésus a fait. Donc, un monde qui va, comme on voit, qui va mal. Et ça, ce n'était pas le projet de Dieu. Ce n'est pas, pas dans le plan de Dieu. Dieu a tout créé pour sa gloire, c'est vrai. Et on ne peut pas dire que le monde, si ça devenait le monde venait à disparaître tel qu'il est, entre nous, on aurait l'impression que c'est un peu un échec de part de Dieu. Eh oui. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait le monde. Et on sait qu'il est prévu qu'il va restaurer les choses. Il a déjà restauré sa relation avec l'homme, conséquence du péché, mais il va restaurer aussi, et quand je dis le monde, le monde physique aussi. Et bon, donc on sait très bien que Jésus va revenir pour régner sur terre, on va en reparler tout de suite, un jour tout genou fléchira, bon, et n'oublions pas que Dieu a tout créé en lui, par lui et pour lui. Donc, le plan de Dieu, et il l'annonçait déjà depuis longtemps par les prophètes, c'est de restaurer l'harmonie primitive qui était perdue à cause de l'homme. Et là, je fais simplement vous faire référence à un passage que vous devez connaître, Ésaïe chapitre 11, un tableau idyllique, on ne comprend pas, parce qu'il est fait mention, bon, vous pourrez relire, on ne va pas le lire, mais vous connaissez sûrement, et je cite simplement quelques versets qui sont dits, c'est « Le loup va vivre avec l'agneau, la panthère aux côtés du chevreau, le veau, le lionceau, le bœuf ensemble vont manger la paille », vous connaissez ce tableau, un peu idyllique. Et il est précisé au verset 9, on ne connaîtra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et c'est ça qui va tout changer. La connaissance de Dieu sous le règne de Jésus, ça va changer les mentalités. Il ne se commettra plus de mal. Et là, je vous fais référence à Apocalypse 20 où il est mis que Satan sera jeté dans le puits, enchaîné, couvert dessus, pourra pas nuire pendant tout ce temps-là. Et c'est un changement qui va produire une transformation qu'on a du mal, nous, à imaginer. Souvent, quand ça va mal, on entend ces réflexions, si Dieu existait, il ne permettrait pas que telle ou telle chose arrive. On l'entend régulièrement. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les problèmes ne viennent pas de Dieu, les problèmes viennent de l'homme. Eh oui. L'homme qui vit dans le péché, sous l'influence de Satan, bien sûr, et des puissances diaboliques. Et mais s'il y a tant de gens qui souffrent de faim et de malnutrition, c'est pas que la planète est en manque de ressources. C'est parce que l'homme répartit mal les richesses que la planète produit. Est-ce que vous savez combien le monde dépense en armement? Il dépense la somme, j'ai noté pour ne pas me tromper, 1500 milliards de dollars chaque année. Une somme qui, utilisée, pourrait pourvoir aux besoins de l'humanité pendant 5 à 6 ans. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de gaspillage alimentaire au niveau mondial? Eh bien, le monde gaspille 25 à 30% des aliments produits. On prendrait un quart du gaspillage, on nourrit toute la planète pendant un an. Bon, je n'en dis pas plus. Mais c'est vous dire que si ça va mal, c'est que l'homme gère mal le monde. Et pourtant, Dieu lui a donné l'intelligence, il y a les compétences technologiques et tout ça. Et réfléchissez que moins de 10 personnes ont à elles seules autant que les milliards de toute la planète. En argent. En moyen. Donc voilà pourquoi la venue de Jésus donc, sur Terre va permettre une meilleure gestion de la planète. Et donc quelque chose qui va rendre gloire à Dieu. Bien sûr. Bon, ça c'est le premier point. Jésus doit revenir pour que ça aille mieux. Deuxième point. Concernant, là c'est moins évident, c'est concernant effectivement la période de son retour. Comment savoir si c'est bientôt? Même si on ne peut pas fixer de date précise, eh bien moi j'ai envie de répondre, on va faire comme le sage dont il est dit en Proverbe 24, 30, je vous lis, enfin, traduction la Bible du Semeur. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage, et voici que les orties avaient tout envahi, les ronces recouvraient le sol, le mur de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. C'est le sage qui parle, et là ça concerne précisément les conséquences néfastes de la paresse, entre autres, et de l'oisiveté. Mais le sage, il a vu, il a observé, il a réfléchi, il a tiré une leçon. Donc je propose maintenant, on va faire 3 points, on va voir, on va essayer de comprendre, et on va dire comment agir, comment réagir. Premier point, donc voyons un peu, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit chaque jour des tas de choses qui effectivement heurtent nos sensibilités, parce qu'elles expriment un monde qui va mal. C'est évident, et là je ne vais pas trop m'attarder, parce que les catastrophes, il y en a suffisamment, on les a vues, beaucoup en ont fait des... ont vécu des traumatismes dans leur famille ou autre, mais enfin, personne n'est indifférent. Mais il y a les catastrophes politiques, il y a les économiques, les climatiques et les météorologiques, mais beaucoup de catastrophes. Donc, je ne vous repasse pas la série des ouragans, là, vous connaissez. Harvey, Irma, José, Maria, il y en a un dont on ne parle pas, Lee. Mais vous savez que Maria continue, il va s'associer à l'ouragan Lee, et vous savez où vient, direction de l'Europe. Donc en ce moment, c'est l'Irlande qui va être touchée, ce week-end d'ailleurs, les jours qui viennent, et la France plus ou moins. C'est pour ça qu'il va faire mauvais temps, ne vous inquiétez pas. Mais on n'aura pas la force des ouragans que, malheureusement, les îles ont connu, ni la Floride. Bon. Je ne parle pas des tremblements de terre, on peut en parler, si, ce qui est au Mexique. Dernièrement, maintenant, c'est la Bretagne et la France, vous savez, elle n'est pas à l'abri. On nous rappelle tous les zones qui peuvent trembler en France. Bon. L'inondation, incendie, il y en a encore en Californie récemment, les attentats, les conflits armés qui engendrent exode, famine, immoralité, la méchanceté de l'homme par rapport à son semblable, on est d'accord, le tableau est sombre, et à tel point que certains ont parlé d'apocalypse et fin du monde, on l'a entendu à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est pas vieux. Alors, est-ce qu'on saurait vraiment dans les temps de la fin? On peut se poser la question. Les disciples ont posé à Jésus la question. Quels seront les signes qui marqueront donc, que tu vas revenir? On sait que ça se trouve en Matthieu 24, vous connaissez. Et Jésus a donné beaucoup de signes. On va prendre le chapitre 24. On ne va pas lire tous les signes, mais je vais déjà vous lire ce que Jésus va dire. Donc après avoir donné tous les signes, c'est en Matthieu 24, 32-33. Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Jésus dit, regardez un figuier, quand vous voyez les feuilles qui poussent, c'est pas vous imaginer, peut-être que l'été va venir, il se pourrait que non. Sachez, vous êtes sûr, vous avez cette conviction que l'été va arriver. Et Jésus dit pareil, quand vous verrez les signes, il y a un moment où vous aurez une conviction, sachez que, effectivement, et ça ne sera pas l'effet du hasard, ça ne sera pas dû à un truc ou quoi, c'est effectivement, eh bien, il y aura une relation entre le fait que je vais revenir et des phénomènes dans la nature. Entre eux. Et là, je voudrais prendre le temps un instant, rapidement, on n'a pas l'habitude de le faire, mais enfin, ça peut être utile de le faire aujourd'hui, de voir combien la nature, elle est pleine d'images, justement, riches d'enseignements dans le domaine spirituel. Et on va déjà regarder l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus, il sillonnait la Galilée, et il était en contact tous les jours avec la nature, des scènes donc, de la nature. Et c'est pour ça qu'il va parler beaucoup en parabole pour expliquer les réalités du royaume des cieux. Et ça va beaucoup l'aider pour donner des notions qui sont un peu abstraites. Pour les auditeurs qui voyaient chaque jour des troupeaux de brebis, dire qu'il était le berger venu soigner les brebis, je dirais, pour eux, c'était parlant. Le rôle du berger, ils connaissaient. Illustrer la valeur de chacun de Dieu en parlant de cette brebis des 99 que le berger laisse pour aller chercher la brebis perdue, c'était aussi pour eux quelque chose de concret. Raconter l'histoire de ce propriétaire qui va dans sa vigne le matin et qui envoie des ouvriers dans sa vigne à toute heure du jour pour récolter, là encore c'est quelque chose qui était vécu pour eux dans le quotidien pratiquement et ça les faisait se poser des questions, comprendre plutôt que Dieu voulait les utiliser pour son œuvre. Expliquer pourquoi des méchants côtoient les bons et que Dieu finalement ne fait pas le tri comme on voudrait, c'était clair pour ceux qui avaient vu des champs de blé ou pousser l'ivraie, et Jésus va justement utiliser une parabole où il va expliquer que le maître va dire au serviteur justement, n'arrachez pas l'ivraie de peur que vous ne déraciniez en même temps le blé, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. D'où cette idée de jugement à la fin des temps, effectivement, par la moisson, qu'on retrouve quelque part en Apocalypse. Apocalypse 14, 15, il est dit à l'ange, lance ta faucille, moissonne, l'heure est venue de moissonner, la moisson de la terre est mûre. Encore une image, donc, vous voyez, de paysanne, je dirais. Ou dans le psaume 1, aussi l'image du vanage, où le sort des méchants vont être balayés, emportés par le vent, comme la paille est séparée du bon grain. On peut multiplier les exemples, allez, encore quelques-uns. Chaque fois qu'il y a débordement des eaux, la crue d'un fleuve, un grondement d'eau impétueuse ou un mugissement de la mer, c'est souvent, de la part de Dieu, annoncé eh bien, qu'il y aura des forces ennemies qui vont venir déferler sur le peuple une forme de châtiment. Quelque part, Dieu l'annonce, il va y avoir une invasion, c'est cette image des flots qui déferlent. Et quand Dieu annonce un châtiment, eh bien, il va parler de régions fertiles qui se transforment en désert, des récoltes qui ne produisent rien. On pourrait même penser au plaies d'Égypte. Oui. Chaque fois, la nature, c'est vous dire que la nature nous enseigne parce qu'en fait, elle est participante du projet de Dieu et Dieu établit un rapport entre l'homme à travers la nature. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je veux dire. Expérience personnelle, ceux qui ont un jardin vont comprendre. J'ai des arbres fruitiers, bon, tous les ans, si je veux que mes arbres donnent des fruits, tout ce qui est branches mortes, je scie régulièrement, je coupe. Et les branches qui m'envoient porter des trucs, je les coupe. Il y a l'élagage, l'émondage. Quand je le fais, moi, tout de suite, ça me rappelle Saint-Esprit. Et c'est ma prière de Saint-Esprit. Viens couper en moi tout ce qui ne porte pas de fruits. Pourquoi ? Vraiment, l'image, pour moi, elle est claire. J'ai une pelouse avec beaucoup de mauvaises herbes. Des fois, je n'ai pas le temps pour que ça fasse plus joli. Je prends la tondeuse, on coupe tout. Ça fait joli, mais les mauvaises herbes, elles sont coupées. Hein. Elles ne tardent pas à repousser, même de plus belles. Quand j'ai le temps, je m'arme de courage parce qu'il n'y a qu'un moyen, c'est d'arracher les mauvaises herbes qui ont des racines, je peux vous dire, 15 à 20 cm, ça s'enchevêtre près de sous. Cet été, j'ai passé du temps, je vous dis. Il n'y a que comme ça. Et des fois, il faut revenir quelques semaines après parce qu'on n'a pas tout arraché, ça commence à repousser. Mais quand je fais ça, je dis, Seigneur, arrache de mon cœur toutes les racines de péché parce qu'en fait, il faut les arracher une par une et ça prend du temps et il faut y revenir. Je vous assure, Saint-Esprit fait dans notre cœur ce que le jardinier fait dans ce jardin. Quand j'arrose les plantes, hein, les légumes, et que je mets du fertilisant, c'est pareil. Hein. Seigneur, fais, fortifie ma foi par l'eau de ta parole. Bon. Que ton Saint-Esprit vienne effectivement encore, et eh bien, la vie de l'Esprit vienne donner force, hein, donc à ma relation avec toi. Que je sois, en parlant du soleil, eh bien, que ton regard soit favorable et approbateur sur tout ce que je fais pour vraiment, hein, ensoleiller. Ben, on prend les images, elles sont là. J'en dis pas plus, mais c'est bon parce que c'est un rapport à ce que je veux essayer de vous faire comprendre ce matin. Parce que Dieu a créé la nature, il en prend soin, je sème, j'arrose, c'est lui qui fait pousser. C'est vrai. Mais il nous parle à travers elle. Vous connaissez la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1, lorsqu'il leur dit au verset 19, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Paul est en train de dire que un Dieu créateur n'existe pas, c'est pas possible. Dieu le montre, hein, tous les jours devant nos yeux à travers la création. Et la création, elle est belle. Elle est belle. Bon, même si parfois il y a des côtés qui nous font peur, mais elle est belle. Et là, prochainement, on va arriver en automne, vous allez voir. Bon, hein, ces forêts avec les arbres qui prennent toutes les couleurs, c'est des tableaux, mais hein, c'est mieux que dans les musées, s'il est la main du meilleur des maîtres, effectivement. Donc, et ça, c'est important. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand ils vont au bord de la mer, à la montagne ou en forêt, c'est parce qu'il y a cette empreinte de l'infini qui recherche inconsciemment. Ils recherchent ce contact avec la nature, mais sans le savoir, c'est la relation avec Dieu qui leur manque, en fait. Donc, sachons prendre le temps, je dirais, de contempler les œuvres de Dieu, de rendre gloire à l'artiste, et ça va nous aider à mieux connaître Dieu. Te connaître, mieux te connaître, en se servant aussi de la nature. Et mieux réagir aussi face aux adversités. Et là, vous ne serez pas étonné si je vous dis que c'est ce que Dieu a demandé à Job. Job, après des épreuves, il ne comprenait pas, il se posait des questions, ses amis lui disaient lui donnaient des explications. Il voulait comprendre pourquoi il était atteint de tant d'épreuves. Et à la fin, dans le livre de Job, Dieu intervient. Mais Dieu ne va pas répondre à toutes les questions que Job se posait. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il se contente de dire, eh bien, regarde. Regarde ce que tu vois. Regarde bien. Et dis-moi, eh bien, qui a fait ça? Est-ce que l'homme y est pour quelque chose? Et là, je vous invite, vous relirez les chapitres 38 et 39 de Job. Parce que c'est quand même quelque chose qui montre qu'on a un Dieu merveilleux, étonnant. Dans chapitre 38, Dieu décrit sa création. Je vous relis simplement quelques versets pour vous redonner un peu le contenu de ce chapitre. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? Qui a fermé la mer avec des portes? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les jours de détresse? Qui a ouvert un passage à la pluie? Tracer la route de l'éclair, du tonnerre, etc., etc. Le Dieu créateur a tout mis en place. Dans le chapitre 39, il montre de quelle façon il prend soin des animaux et les nourrit. Et là encore, quelques versets simplement pour vous donner le contenu de ce chapitre. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent pas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent, etc., etc. Tout le chapitre est construit de manière à ce que Job constate que Dieu est tout puissant, qu'il s'occupe de tout, de sa création, et qu'il s'occupe de lui aussi, puisqu'il en fait partie. Et Dieu termine par cette question, dans Job 39, 37. Celui qui dispute contre l'Éternel est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? T'es convaincu? Quelque chose à ajouter? Et Job, il va se contenter de dire, eh bien non, je suis trop peu de choses, qu'est-ce que je vais répliquer? Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondais plus, deux fois, je n'ajouterai rien. R-A-A, rien à ajouter. Bon, Job, c'est ça. Et il va reconnaître la tout-puissance de Dieu. Il dira, je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil maintenant T'as vu. Job n'a pas vu Dieu. Mais en disant ça, Job, il est en train de dire qu'il a fait une expérience au travers de laquelle, eh bien, d'un seul coup, il apprend à être content même de sa situation, parce qu'en fait, il a compris que Dieu était là, que Dieu pouvait tout et que Dieu s'occupait de lui. Donc, il va se repentir. Il va, Job 42,6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Il se repent de l'attitude qu'il avait pu avoir. Et notez ses paroles, donc, il dit « je me repens ». Eh bien, cette attitude de repentance, c'est ce qui va ouvrir une incroyable bénédiction, en fait. Et notez bien que, en fait, chaque fois qu'il y a une épreuve, épreuve égale voulue par Dieu, je vous le redis au passage, l'épreuve est voulue par Dieu. Eh bien, il y a toujours à la clé une grande bénédiction, quand l'épreuve est finie et quand on a laissé Dieu agir. Et je vous parle de Job parce que nous aussi, donc, on connaît des situations dramatiques et on se pose comme Job des questions. On veut comprendre. Eh oui, qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bon, donc on arrive, point numéro 2, assurez-vous. Hein. Je respecterai le timing. Comprenons, essayons de comprendre. Est-ce qu'il faut, comme sous-entendez les amis de Job, alors, voir dans les catastrophes un signe de la colère de Dieu, je dirais, et contre un peuple pécheur? Autrement dit, est-ce qu'il faut faire des fois une corrélation entre le malheur qui frappe des populations et, je dirais, un état spirituel défaillant, un manque de relation à Dieu, une vie dans le péché? Et elle dit, attention à ce raccourci dangereux que malheureusement, parfois, on entend, ou que certains se tentent de faire. Bon, il est vrai que depuis le péché de l'homme, eh bien, la création est soumise à la vanité, Romains 8, 20, et une puissance de corruption a servi le monde. Autrement dit, les conséquences du péché de l'homme se font aussi sentir dans la nature. C'est vrai. Et rappelez-vous d'ailleurs la punition de Dieu. Tu travailleras à la sueur de ton front, il y aura des épines, il y aura des ronces, la femme va enfanter dans la douleur, il y aura la mort, donc tu retournes à la terre. Ça, conséquence du péché de l'homme. C'est vrai. Et ça explique des fois bien des lots de souffrance, effectivement, et la mort. Mais dire par exemple que tel peuple est frappé parce que Dieu le punit, imagine, là c'est aux antipodes, bien sûr, du message apporté par Jésus. Ce serait se méprendre sur l'amour et la miséricorde de Dieu, et ce serait faire fi de l'œuvre que Jésus est venu accomplir, nous réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, rappelez-vous, et là je vais vous citer des paroles de Jésus, en Jean 9, on le met face à un aveugle de naissance. Et les disciples posent la question, est-ce lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et qu'est-ce que va répondre Jésus? Jean 3, 9, verset 3, ce n'est pas lui ou ses parents... Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Une autre fois, Jésus va mettre en garde ses disciples de ne pas juger. Et là, vous allez le lire avec moi, c'est en Luc, au chapitre 13. Luc 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été égorgés, offerts en sacrifice. C'est un terrible, ça. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Notez le message de Jésus. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Deux réflexions de Jésus, en disant que ces gens-là n'étaient pas plus coupables, mais chaque fois Jésus précise, si vous ne vous repentez pas, donc il y a cet appel à la repentance. Cet appel à la repentance dans la bouche de Jésus, c'est vraiment le cri du cœur de Dieu qui appelle ses créatures à se repentir. Donc, parce que le but de Dieu, finalement, c'est que chacun le connaisse, effectivement, et qu'il rentre dans cette relation d'amour qu'il propose, effectivement, à travers ce que Jésus a fait par amour pour nous. Donc, il est plus juste de considérer les épreuves que peut connaître notre monde comme des appels à la repentance pour que le monde soit prêt, chacun, le maximum, à comparaître devant lui. c'est sûr. Et qu'est-ce qui manque à l'homme, souvent, pour se tourner vers Dieu, se repentir? Manque de choses, hein. Une prise de conscience. Qui est Dieu? Et qui nous sommes? Qui est l'homme? Pauvre créature pécheresse, donc, qui est dépendant de son créateur, qui a besoin du pardon de Dieu. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu permet tant de catastrophes. Parce qu'un monde qui ne manque de rien s'imagine pouvoir se passer de Dieu. Entre parenthèses, pourquoi il y a tant de conversions dans les pays moins développés que nous? C'est parce que les gens, effectivement, ont peut-être plus besoin, mais ils ont compris que leur principal besoin, c'était Dieu. Mais quand on a tout, vous savez, on n'a pas besoin de Dieu, et encore, quand en plus on a la technologie, alors là, on a notre super Dieu. On croit que là, par technologie, on va résoudre tout. C'est devenu l'idole, la technologie. Là. Bon. Et, ben merci Seigneur, parce que s'il y en a qui se sont trouvés face à des vents de plus de 300 km/h ou des vagues de 6 à 8 mètres de haut, vous savez, vous pouvez voir tous les objets connectés, toute la technologie, vous verrez. On n'est pas fiers. On est petit. Il faut peut-être se le rappeler si tu entends. Mais Dieu contrôle tout. Cela dit, Dieu contrôle tout. Dieu n'a qu'un mot à dire, la tempête s'arrête. Dieu n'a qu'un mot à dire, un tremblement de terre s'arrête. Il pourrait empêcher. Et je suis sûr, et là il faut le dire aussi, que Dieu a entendu des prières. Et Dieu, là on a vu la main de Dieu, dans bien des témoignages qui ont été donnés, de vies qui ont été étonnamment sauvées, préservées. Dieu a agi. Pourquoi? Dieu n'est pas à rien faire. Mais il permet d'utiliser l'événement quand même parce qu'il veut parler aux créatures et les interpeller. Mais revenons là, à la question concernant la date du retour. Donc on sait que Jésus doit revenir, il a donné des signes, alors est-ce qu'on a les signes dont Jésus a parlé, est-ce qu'on est à la veille de son retour? Donc j'ai dit Matthieu 24, je ne vais même pas le lire parce que vous les connaissez, et puis de toute façon, vous les relirez, ils sont connus, mais je vais vous dire tout de suite, ces signes-là, eh bien ils sont là depuis des siècles et des siècles en fait. Le monde a toujours connu des catastrophes, des guerres, des tremblements de terre, des famines. C'est vrai. Pourquoi? C'est intéressant de comprendre pourquoi. Parce que Dieu qui connaît la date, il connaît, c'est quand. Il veut que personne, enfin que tous le connaissent, et donc que chacun, je ne sais plus le verset exactement, Dieu veut que tous le connaissent. Bon, il soit sauvé en fait, bon, c'est pas grave. Oui. Voilà, bon, ça m'échappe. Bon. Donc, ça c'est le désir de Dieu. Donc, il va utiliser... Il veut que chaque génération, il veut que les gens soient prêts. Il veut que chaque génération ait les signes pour que chaque génération se dise « Ah, attention, on a les signes, peut-être que Jésus va revenir. » C'est pas plus compliqué, hein. Je vous dis entre parenthèses que les premiers chrétiens déjà pensaient que Jésus allait revenir. Ah, non, déjà. Donc, il fait en sorte que chaque génération se dise « C'est bientôt la fin. » Mais la fin tarde à venir. Et pourtant, elle est programmée pour Dieu. Mais Dieu, pourquoi? Parce que Dieu, il est patient. Et ça, il ne faut quand même pas oublier non plus que sa miséricorde et son amour l'emportent, je dirais, sur sa colère. On a un Dieu qui est lent à la colère. Et comme il a un objectif de sauver tout le monde, au moins le maximum, eh bien, il donne encore la chance, et encore une chance. Et Pierre, il a compris ça parce que Pierre l'explique clairement. Je vous recite le verset 2 Pierre 3,9, parce qu'à l'époque, les gens disaient, oui, mais depuis que le monde est monde, on a toujours eu. Pierre, il entendait ça. Comme quoi les signes, ils étaient déjà là, mais rien qui change. Il dira, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc voilà pourquoi le retour de Jésus, il tarde déjà. Ça, c'est la patience de Dieu. Mais il y a une autre raison aussi. Elle s'impose à nous dans la mesure où vous savez que notre planète doit accoucher d'une nouvelle Terre. Je vous cite tout de suite Apocalypse 21, ils ont dit « Je vis un ciel nouveau, une nouvelle Terre. Le premier ciel, la première Terre avait disparu, la mer n'existait plus. » Qui dit donc elle doit accoucher d'une nouvelle Terre. Qui dit accouchement dit gestation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Qui dit gestation dit douleur et contraction. Ainsi, de même qu'une femme qui est enceinte va connaître au fil des mois qui passent une douleur par-ci, une douleur par-là, une contraction. Et à mesure qu'on va s'approcher du terme, 7, donc on va s'approcher du jour de l'accouchement. Les contractions se font plus rapides, elles se font plus fortes, les douleurs plus fortes. En fait, il y a un crescendo, je pense. Je n'ai pas vécu, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon. Donc, et quand vous entendez les gens, vous voyez, en fait, on n'a jamais vu ça. Il faut remonter à des années que les gens n'ont pas connues, souvent. Hein. Mais non seulement, peut-être ça s'est déjà produit une fois, mais c'est que c'est de plus en plus souvent, c'est de plus en plus fort. Donc, on n'a pas encore vu le maximum. Et notez que ce parallèle-là que je vous fais entre les secousses sismiques et les contractions de la femme enceinte, ça c'est biblique. Hein. Je n'ai pas inventé, hein. C'est biblique. On retrouve les images chez les prophètes Ésaïe, Jérémie, Joël. Bon, je fais grâce des citations, on viendra me trouver à la fin, je les ai là, si ça vous intéresse. Même Jésus aussi, en Jean 16, 22, il donne cette image à ses disciples qui sont à la tristesse. Il dit, de même qu'une femme est triste pendant qu'elle est enceinte, si vous voulez, et au moment d'accoucher, elle souffre, mais après, elle est contente. Vous aussi, quand vous me reverrez, vous serez contente. Voilà. Jésus prend cette image-là. Mais surtout, il y a un passage là qui est explicite, c'est Romains 8. Lisez-le avec moi, parce que c'est important que vous le lisiez aussi. Pas seulement l'écouter, vous allez le lire en même temps que moi. Romains 8, c'est 18-22. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je n'ai pas inventé. Mais. Ça veut dire que les temps de souffrance présente sont rien en regard de ce qui va se produire, justement, et de cette apparition d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc la terre qu'on connaît doit disparaître. Ça, c'est prévu dans le plan de Dieu. Et je vous ai dit qu'elle va disparaître en grande partie déjà à cause de l'homme, qui gère très mal le mandat que Dieu lui a donné de prendre soin, effectivement, de la terre, de sa création. Et donc l'homme récolte ce qu'il a commis. Et donc beaucoup de catastrophes viennent, effectivement, vous avez compris, de l'égoïsme de l'homme, de la mauvaise répartition. Parfois aussi, on n'est pas assez prévoyant, on ne met pas les sécurités qu'il faut. Enfin bon, on peut trouver des tas de raisons, mais l'homme est responsable. Bon, et c'est vrai qu'on vous parle de réchauffement climatique, les couches d'ozone, tout ce qu'on veut. Enfin, toujours est-il que la planète, elle est en péril, c'est sûr. Et ça donne beaucoup de victimes innocentes, entre parenthèses, hein, bien sûr. Mais tout ça, ça ne suffirait pas. Et là, il y a un agent principal qu'il ne faut quand même pas oublier. Je le garde quand même pour la fin, là, c'est qu'il y a Satan qui agit. Et oui, Satan l'ennemi de Dieu, Satan l'ennemi de l'homme. Et lui, il joue beaucoup dans la destruction de la planète. Bon, il a été vaincu à la croix, c'est vrai. Il est toujours en poste. Dieu a autorité sur lui, mais il voudrait faire croire qu'il est le maître du monde. On connaît l'obsession de Satan. Dans son orgueil, il voudrait se faire passer pour Dieu, c'est sûr. Donc, il va faire en sorte qu'il veut devenir le sauveur de l'humanité. Donc, il va faire en sorte que ça aille très, très mal. Et quand ça ira mal, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va donner son pouvoir à un homme politique. On va appeler l'Antichrist. C'est la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, vous verrez, indice. Et il va aussi susciter un prophète à qui il va donner un pouvoir religieux. C'est la bête qui monte de la terre, Apocalypse 13, 11, 18. Donc, il forme sa trinité diabolique. Et, effectivement, eh bien, il va dire, voilà, moi, je suis celui qui vous sauve. Il va imposer, bon, ben, j'en dis pas plus, parce que c'est pas le sujet, en fait. Ça déborde, mais il faut savoir. Ça, il faut savoir que Satan fait en sorte que, eh bien, ça va aller très très mal. Bon. Donc, Dieu nous a prévenu, on doit être prêt. Avoir des jours mauvais et difficiles. Mais pendant ces jours-là, là, je vous rassure tout de suite, c'est que Dieu ne va pas se croiser les bras, il ne va pas attendre que ça passe. Dieu va utiliser, parce que... donc Satan, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que Dieu a donné beaucoup de pouvoir à Satan, mais Dieu utilise toujours son ennemi pour accomplir ses projets. Il a utilisé Pharaon, il a utilisé Nebuchadnezzar, enfin, tous les grands, ceux qui ont des grandes responsabilités dans le gouvernement du monde, Dieu les utilise. Bon. Et... tout comme il a laissé faire Satan pour Job. Dieu, il laisse faire. Il laisse faire, mais Il sait que ce que le malin fait, ça le... il s'en sert pour réaliser ses projets. Donc ça, c'est quand même important. Donc Dieu, en fait, bon, ça va mal, mais l'Esprit de Dieu profite du fait que ça va pour interpeller les gens qui se posent des questions, des gens qui veulent savoir, des gens qui sont bousculés dans des fois dans leur sécurité et tout. Dieu, hein, par son Saint-Esprit, va agir, hein, il va manifester sa bonté, il va faire grâce, il va dire à lui, il va donner salut à beaucoup qui vont crier à lui. Ça, c'est, je dirais plus que jamais, ça va être un temps où Dieu va agir, c'est sûr. Satan l'agira peut-être, mais Dieu va agir encore plus. Ça va là ? Oui, toujours ? Bon. Alors, on récapitule. Proverbe 20, 24 ans, le sage a vu, il a réfléchi, il a tiré une leçon. Bon. On a vu que ça va mal. Il suffit de voir ce qui se passe autour de nous. Et s'il y en a qui n'ont pas vu, tout de suite, je précise encore quand même, les scientifiques sont là pour nous attirer notre attention. C'est peut-être pas la nature, c'est peut-être pas la parole de Dieu. Écoutez les scientifiques. Mais je vais vous dire, ça fait longtemps qu'ils tirent le signal d'alarme sur notre planète. Et ils s'accordent tous à dire que dans quelques décennies, ça va être dramatique. Et là, c'est les scientifiques qui le disent. Parce qu'ils partent du constat évident. Les ressources de la planète sont limitées. Même si on trouve encore des remplacements hein, dans les sources d'énergie et tout, mais il arrive un moment, bon, on aura tout épuisé. La croissance démographique, elle continue. Bon, elle est exponentielle à un moment, elle ralentit un petit peu, mais il y a quand même toujours de plus en plus de gens sur Terre. Et donc, à un moment, on va manquer. On va manquer. C'est mathématique, je dirais, c'est insoluble, inévitable, surtout si on continue à vivre comme on vit. C'est-à-dire avec l'inégalité, les uns consommant tout et les autres n'ayant rien. Et il y a un pic démographique, justement, hein, vers 2050, trentaine d'années. Il y aura quand même plus de 9 milliards d'habitants sur la planète. Ça. Eh bien, d'ici 30 ans, il y en a qui, j'ai entendu, il faudrait deux planètes comme la Terre pour nourrir tout le monde. Bon, ça, c'est des scientifiques qui s'alarment. Moi, je ne m'inquiète pas. Hein. Dieu, il sait, ne m'inquiétez pas. Dieu, il sait, il a prévu. Bon. Il y a 11 ans, Al Gore, ça ne vous dit peut-être plus rien, mais il a été vice-président des États-Unis, Al Gore. Il s'alarmait du réchauffement climatique. Il avait fait une vidéo qu'il avait intitulée « Une vérité qui dérange ». Et effectivement, tout ce qu'il avait prédit, ça s'est avéré exact, malheureusement. Et ce n'était pas réjouissant, mais ça s'est avéré depuis, et il avait raison. Et puis il est respectable, parce qu'il a donné le prix Nobel l'année d'après, donc c'est quand même pas un petit rigolo. Bon. Et figurez-vous que ces jours-ci, il réédite avec une nouvelle vidéo qu'il appelle la suite, une vérité, non la suite, une suite qui dérange. Bon, il ne dit pas grand-chose de nouveau, parce que déjà ce qu'il a dit, ça a déjà été dit par d'autres. Mais, entre autres, dans 30 ans, il dit, la Floride aura disparu sous les eaux. Bon, c'est pas rassurant. Quand je dis ça à ma fille, bon, mais 30 ans, ça va vite arriver. Dieu sait. Alors, je suis pas en train de faire peur, mais ça, c'est un scientifique, donc ça veut dire, hein, dans ce qu'on voit, donc, maintenant, comprenons. Donc là, c'est ce qu'on entend. Comprenons que Dieu utilise les événements, donc effectivement, pour parler aux créatures que nous sommes, il veut nous enseigner, il veut nous mettre en garde, il veut nous rappeler les vraies valeurs, c'est vrai. Il veut qu'on se repente, qu'on lui fasse confiance. Mais il veut aussi qu'on sache qu'il n'y en a plus pour si longtemps que ça, quand même. Eh oui, parce que là, ça se rapproche. Bon. Alors, troisième temps, et là, ça sera beaucoup plus rapide, parce que c'est tout ce qui reste à faire, c'est plus important, c'est réagir. Comment on va réagir? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bon, il y a beaucoup à dire, effectivement. Alors, moi, je vais me contenter de quelques pistes de réflexion. Puis après, ça sera à chacun d'adapter, de méditer, puis que le Saint-Esprit montre à chacun ce qu'il y a à faire. D'abord, je dis, comportons-nous en citoyens responsables. Et en disant cela, ça veut dire que tout chrétien devrait être un modèle dans son respect de l'environnement, eh oui, et ne pas gaspiller inutilement, que ce soit en eau. Ça devient dans les reins. On n'est pas obligé de prendre un bain tous les jours. Hein. On n'est pas obligé de se doucher une demi-heure tous les jours. Hein. On prend trop de temps, on prend pas ça. En électricité. Eh oui. Des fois, est-ce que vous pensez, des fois cette salle-ci, il n'y a plus personne. Personne n'a éteint. Personne ne pense à éteindre. On s'en va. Attendez. Gaspillage. Je vous assure, et là je suis sérieux. Je vais même aller loin. On ne peut pas se dire chrétien si on ne prend pas soin des ressources de la planète. Revenez à Genève. Hein. Gère bien cette terre. Et ça, c'est vraiment, il y a du gâchis. Attention. On est coupable devant Dieu, là, parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. Pensez-y. Bon, j'en dis pas plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous aller s'inscrire au parti écolo, c'est pas ça. Mais attention, il y a trop de gâchis, on ne peut pas se permettre. Honnêtement. Hein. Bon, c'est chacun son âme et conscience par rapport à Dieu, mais on vit hein, notre planète. Bon, de plus en plus, on recycle maintenant. Mais dans nos comportements, on ne peut pas tout se permettre. Sinon, tu es un chrétien qui ne respecte pas l'ordre donné à Dieu aux hommes. Soyons conscients aussi, je dirais, bon, que les événements se précipitent, ça vous avez compris, hein, que ce n'est pas le moment de rester endormi, et il faut être prêt pour le jour où, on s'en va, où Jésus revient, prêt à le rencontrer, prêt à être en communion avec lui, bon, par principe, tout chrétien devrait être prêt, mais surtout ayons souci de ceux qui ne connaissent pas, de ceux qui ne sont pas prêts, de ceux qui, malheureusement, eh bien, ne sont pas encore sauvés, et qui sont confrontés justement à toutes ces catastrophes, à tous ces drames, qui ne comprennent pas. Hein, et puis certains, ben, malheureusement, ils partent hein, sans avoir réalisé, sans être en paix avec Dieu. Et ça, c'est quand même important, parce qu'il faut, nous, c'est notre devoir, en tant qu'Église, en tant que chrétien, de beaucoup prier, intercéder, pour que dans tout ce qui se passe, hein, eh bien, qu'il y ait prise de conscience de la part de ceux qui nous entourent. Et beaucoup ne se rendent pas compte. Et c'est à nous de faire prendre conscience que, eh oui, il faut être prêt, on peut quitter du jour au lendemain, il faut être prêt. Et je dirais que, donc, notre message, il faut le transmettre. Mais prions Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre. Et ça, passons du temps dans la prière. En tant qu'Église, c'est notre mission d'Église. On doit prier pour le monde. On doit prier. Et ça, c'est important. Hein. Ça, bon, à la limite, que vous ne pensiez pas prier pour vos petits besoins personnels, mais prier pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, réalisent, prennent conscience. Ça, c'est important. Et gardons, je dirais, cette conviction que Dieu, il est à l'œuvre. Ça, c'est sûr. Il contrôle tout. Il fait en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. C'est-à-dire que, lors des catastrophes, Dieu laisse parfois, à certaines personnes, elles vont tout perdre. Mais il donne l'essentiel, en fait. C'est-à-dire le salut. Et si c'est le cas, les gens ont tout gagné. D'accord ? Ils ont tout perdu, ils sont sauvés, ils ont réalisé. Bon. Dieu laisse parfois des gens, je dirais, être secoués dans tout ce qu'ils ont, mais s'ils trouvent en Jésus ce roc inébranlable sur lequel ils peuvent s'appuyer, ils ont tout gagné. Dieu va laisser des fois les gens être terrifiés, je dirais, par des ouragans puissants et qui vont tout détruire, mais s'ils se mettent à l'abri en Jésus, leur refuge, bon, s'ils comprennent, ça y est. Leur passage sur terre, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Donc, il faut comprendre que Dieu va se servir même des circonstances dramatiques pour attirer à lui beaucoup de personnes hein, qui ne le feraient pas autrement. Ça, c'est sûr. Et donc, en Jésus, disons, se trouve bon, hein, la paix, la joie, le repos. Ça, c'est sûr. Mais nous, on doit le vivre. On doit le vivre. Il faut qu'on ait ce message auprès des gens. Et après, ils en feront l'expérience à travers leur vécu. Mais ça, c'est cette parole que nous, on a à transmettre, en fait. Et je dirais aussi, surtout, eh bien, on doit avoir cette espérance, hein, c'est-à-dire cette attente sûre et certaine de la réalisation des promesses de Dieu. Et qui d'espérance, c'est une attente sûre et certaine. Que Dieu, hein, Jésus va venir, et qu'il y aura un jour une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Bon, ça, c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Mais ça, il faut qu'on l'ait bien chevillé, j'irais, dans le cœur, parce que dans tout ce qu'on doit dire, ce qu'on doit montrer, ça doit... Je dirais que ça doit se refléter. Le témoignage, c'est pas seulement parler, c'est tout un ensemble. Notre façon de vivre, notre façon de... Hein, nos convictions, et puis bon, assorties de, je dirais, de comportements adaptés à ce qu'on proclame, bien sûr. Bien. Eh bien, on va conclure. L'œuvre de Dieu, non, elle est parfaite. Aucune puissance ne peut s'opposer ni la détruire. Mais dans son amour, Dieu veille. Ça, on le sait. Et là, je vous rappelle Ésaïe 54:10. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines venaient à chanceler, mon amour ne s'éloignera point de toi. On a fait un chant d'ailleurs. Et mon alliance de paix ne chancellera point, déclare l'Éternel qui a compassion de toi. D'accord. Jésus a tout accompli. Ouais, d'accord. Mais on est encore dans les temps d'attente de cette manifestation de l'accomplissement des plans de Dieu. Et c'est des plans merveilleux, ça il faut en être convaincu. Il n'y a pas hésité là-dessus. On peut avoir cette ferme conviction que tout ce qu'il fallait faire, Jésus l'a fait, et ça va se réaliser. Et à tout ça, j'ajoute une dernière réflexion maintenant, c'est que si on avait présent à l'esprit la vision de ce qui nous attend, eh bien, on n'aurait qu'une envie, c'est de quitter la Terre au plus vite. Ça, je peux vous dire. On n'aurait qu'une envie, c'est dans la Jérusalem céleste que Jean décrit en Apocalypse 21-22. Mais le problème, eh bien, parce qu'il n'y a pas photo entre les deux. Le problème, c'est que malheureusement, d'une part, on a du mal à réaliser, et puis qu'on s'attache encore à notre petite joie terrestre. Bon, puis Dieu, il est pas prêt. Il veut nous laisser, il a ses raisons aussi. Hein. Mais franchement, je dirais que si on avait cette vision, ça changerait tout. On ne se perdrait pas hein, dans des petits problèmes, on n'irait pas s'enliser, vraiment dans des petits problèmes au quotidien, si on savait que la vision que Dieu a et qui est la nôtre, en fait, qu'on devrait toujours avoir en tête. Et par ailleurs, je dirais, c'est pas que ça va relativiser bien des petits problèmes, mais aussi, ça donnerait du tonus à notre témoignage, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, et surtout, en vie, témoignage de vie d'Église, parce qu'on est là pour montrer, effectivement, que tout ça, c'est une réalité. On vit cette relation avec Jésus. Hein. On est dans l'attente de cette manifestation de la gloire de Jésus. Et vous savez que, et là, je vous ai dit que les premiers chrétiens s'attendaient au retour de Jésus, c'est vrai. Mais ça explique pourquoi ils avaient autant de zèle, autant d'amour, en fait. Et pourquoi ils mettaient tout en commun, parce que c'est vrai que pour eux, ils se disaient, bon, Jésus va revenir, on ne va pas s'attacher au bien de ce monde. Et ils vivaient une communion fraternelle comme on ne peut pas imaginer, parce qu'ils avaient cette conception, pour eux, que Jésus allait revenir de leur génération. Bon. Les générations passées, bon. Peut-être que Jésus va revenir dans notre génération, je ne sais pas, mais il faut être prêt, et pourquoi pas, il faut être prêt. Ils voulaient être trouvés fidèles à leur poste au retour du Maître, et je vous terminerai en citant Matthieu 24-26, c'est Jésus qui dit ça, « Heureux ce serviteur que son Maître à son arrivée trouvera donnant à ses gens la nourriture convenable. » Ma prière, c'est que ce soit le cas pour chacun de nous, qu'on soit prêt, on est en bonne relation avec Jésus, fait confiance, on ne s'affole pas trop de ce qui se passe, mais on saisit l'occasion aussi pour témoigner, effectivement, hein, que eh bien, Jésus est venu, la route elle est tracée, on a une éternité qui nous attend, et je crois que c'est quand même assez important. Et ça, c'est notre rôle en tant que chrétien, d'en témoigner. Et j'invite à prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire sur ce qu'on peut vivre, Seigneur. Parfois ces catastrophes, parfois ces traumatismes, ces secousses concernant notre planète, Seigneur, ces perspectives parfois angoissantes. Mais Seigneur, ta parole nous éclaire et c'est vrai qu'on sait que tu as des bons projets pour nous, Seigneur. On sait que tes projets sont merveilleux, Seigneur, tes projets sont parfaits. Et Seigneur, eh bien, on te remercie parce que tu es patient. Tu supportes nos attitudes, Seigneur, mais tu attends, Seigneur, patiemment, et bien que les cœurs se tournent vers toi, Seigneur. Et cette patience, eh bien, elle est merveilleuse, mais on sait qu'un jour, malheureusement, elle aura un terme, Seigneur. Et on te prie vraiment pour que, eh bien, beaucoup, hein, eh bien, entendent cet appel à la repentance, Seigneur, que tu adresses au travers de ta parole, au travers de tes frères et sœurs que nous sommes, Seigneur, à travers des chrétiens que nous sommes. Et Seigneur, on te remercie aussi parce que tu mets cette assurance dans nos cœurs, Seigneur. Et bien que, quoi qu'il arrive, tu auras toujours le dernier mot, Seigneur, et tes promesses vont s'accomplir. Et ce matin, on va te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont encore loin de toi, hein, qui ne soupçonnent pas, Seigneur, qu'elles peuvent partir du jour au lendemain, qui ne se posent même pas la question, Seigneur. Et c'est pour ces personnes-là qu'on te prie, Seigneur, qu'elles prennent conscience bien qu'un jour elles quitteront cette terre, elles aussi, et que, Seigneur, tu les appelles et bien venir à toi, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit les convainque de cette nécessité d'être en paix avec toi, Seigneur. Et on va te prier aussi pour chacun de nous, pour qu'on soit ces porte-paroles, Seigneur, actifs et zélés. On connaît ta parole, Seigneur, on essaie de la vivre, mais on veut surtout la répandre autour de nous, Seigneur. Et donne-nous, dans tous les contacts qu'on peut avoir, Seigneur, toutes les occasions que tu nous donnes, et bien de rappeler combien tu es bon, hein. Combien eh bien, Jésus, par son œuvre, eh bien, nous donne accès à ce salut gratuit, Seigneur. Qu'on sache trouver les mots pour convaincre nos auditeurs, mais qu'on sache vraiment saisir les occasions que tu nous donnes. Parce que, Seigneur, eh bien, ça, c'est notre mission. Et c'est vrai qu'on veut eh bien, avoir, Seigneur, ces paroles dites par de, hein, concernant ton amour, concernant ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Et aussi, Seigneur, on veut vraiment eh bien, avoir cette espérance aussi, hein, que tu vas revenir bientôt. Et ça doit conditionner parfois ben, dans nos attitudes pratiques, Seigneur. Non pas être insouciant, Seigneur, parce qu'il faut prévoir, mais en sachant qu'il faut tout relativiser, Seigneur. Parce qu'un jour, eh bien, cette terre, on la quittera nous aussi, Seigneur. Seigneur, mais on est heureux, Seigneur. Heureux parce que si nous sommes là ce matin, c'est que déjà nous avons cette foi. On est heureux parce que, Seigneur, eh bien, ton œuvre a travaillé en nous, Seigneur. Et merci, c'est un cadeau de ta part. On est conscient. On est conscient qu'à ce cadeau s'attache aussi, bien, c'est une responsabilité, et donne à chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, ici présents, eh bien, d'être conscient qu'on n'est pas sauvés simplement pour nous tout seuls, Seigneur, mais que Dieu veut nous utiliser aussi. Dieu veut sauver, en fait, tout le monde. Et qu'il est notre mission, ben, d'essayer de partager cette bonne nouvelle autour de nous, Seigneur. Et que ces temps difficiles soient l'occasion, Seigneur, eh bien, de rappeler, aide-nous. Dans les contextes que tu nous permets de vivre, et de rappeler cette bonne parole, hein, qui est vraiment une nouvelle de salut, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, et que vraiment, façonne nos cœurs, fortifie-les, Seigneur, parce que ta parole, elle est là pour nous fortifier, Seigneur, et bien qu'on soit des exemples, Seigneur, dans nos manifestations de foi, Seigneur, qui est la joie, qui est l'enthousiasme, Seigneur, et qui est cette attente, Seigneur. De te voir un jour aussi. On te bénit, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Dieu. Amen. Amen.